produire, la petite lèvre du bas va venir toucher les dents du haut, comme si les dents du haut voulaient mordre la lèvre inférieure. Pour le V, on va utiliser un petit peu le même système. On rapproche lentement la lèvre inférieure des dents du haut.
V. Voilà, pour illustrer la une de la science aujourd'hui avec l'apparition des sons F et V dans l'histoire des langues, une étude étonnante qui nous ramène au néolithique, Axel.
Et oui Mathieu, c'est un peu « dis-moi ce que tu mangeais, je te dirai comment tu parlais ». Une équipe de linguistes démontre dans la revue Science que c'est l'invention de l'agriculture qui a permis l'apparition de ces sons F et V dans la bouche des hommes il y a 10 000 ans. Le fameux « va, court, vol et nous venge du Cid » aurait certainement été très compliqué à prononcer pour les hommes du paléolithique. Alors pour en discuter, nous sommes en duplex depuis les bureaux de Radio France à Lyon avec un des auteurs de ces travaux. Bonjour Dan Dédiou.
Bonjour.
Vous êtes linguiste, enseignant-chercheur pour l'université Lyon 2 au laboratoire CNRS Dynamique du Langage. Alors, cette idée que les sons F et V sont liés directement au mode d'alimentation, comment est-ce qu'elle vous est venue ?
Il y a un très fameux linguiste qui s'appelle Hockett, et qui a proposé cette idée dans les années 80. Et cette idée dans les années 80 était issue pas très bien, et on a pensé d'utiliser les méthodes et les bases données du 21e siècle pour vérifier si cette idée est vraiment fausse.
D'accord. Donc c'est en cherchant de déconstruire cette idée, en cherchant à la déconstruire, que vous avez fini par l'adopter. C'est comme ça que ça s'est passé.
C'est comme ça que la science marche, oui.
Comment est-ce que vous avez procédé alors pour essayer de démonter cette hypothèse ?
On a utilisé plusieurs méthodes parce que cette hypothèse est assez complexe. Et on peut parler de chaque méthode si vous trouvez ça intéressant. Mais en principe, donc, on a utilisé des méthodes statistiques qui testent la corrélation entre la production de la nourriture et les langues parlées par les sociétés. Mais aussi des modèles biomécaniques qui simulent la production du F et du V.
Oui.
Et aussi bien une analyse historique qui essaye de reconstruire la probabilité que les langues anciennes avec du F et du V.
Comment on fait des statistiques avec des langues ?
Oh, c'est pas assez simple parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire une corrélation, qui peuvent générer une corrélation qui n'est pas causale. Donc en principe, on doit utiliser beaucoup de langues, donc presque 2000 dans notre cas, où on code le type de production de la nourriture, donc agriculture ou pas. Et après, on a des bases de données assez importantes qui décrit les langues parlées par cette communauté. Et après, on fait de la statistique moderne, donc vraiment des méthodes bayésiennes qui vérifient que cette corrélation, ça existe et est vraiment significative.
D'accord, donc ça c'était la première étape. Après, vous avez dit que vous avez fait de la reconstruction crânio-faciale. C'est-à-dire que vous avez essayé de voir comment parlaient les hommes il y a 20 000 ou 50 000 ans ?
Donc vraiment, ce qu'on a fait, c'est d'utiliser un modèle biomécanique, donc un modèle qui simule les os et les muscles et tous les tissus et tout ça, et où vraiment on a construit deux anatomies, une anatomie, disons, des populations qui pratiquent l'agriculture, donc comme nous, et aussi une anatomie des populations qui ne pratiquent pas, donc l'autre anatomie, si on veut dire comme ça, si on veut avoir une distinction binaire.
Oui.
Et après, dans ce modèle, ce qu'on a fait, c'est vraiment de produire le même son avec les deux configurations différentes et vérifier si l'effort musculaire, l'effort qui est nécessaire, est le même. Et on a trouvé, bien sûr, que ce n'est pas le même.
Donc, la conclusion, c'est que c'était plus compliqué, plus difficile de faire des F et des V pour les hommes qui n'avaient pas encore inventé l'agriculture.
Oui, exactement. Et on parle ici de l'effort musculaire.
Oui.
Donc, c'est ça vraiment c'est quoi la différence entre les deux anatomies.
Mais qu'est-ce que l'alimentation a changé dans tout ça, alors ?
Or, l'alimentation a des effets assez intéressants sur notre organisme, sur l'architecture de notre visage. Donc, premièrement, si on mange une nourriture qui est plus dure, qui est plus fibreuse, qui a besoin de plus d'efforts de mastication, ça va avoir plusieurs effets. Donc, premièrement, ça va éroder une érosion des dents. Et deuxièmement, ça va avoir un effet sur la croissance de la mâchoire. Et les deux effets qui sont pas nécessairement liés vraiment entre eux, ça arrive à la même outcome, à la même, au même résultat du point de vue de l'articulation des sons. Et les résultats, c'est vraiment le type de rencontre entre les dents inférieures et les dents supérieures.
D'accord.
Et Dan de Dieu, on peut imaginer que la culture des céréales, par exemple, au néolithique, a pu participer à ce changement?
Ah oui, bien sûr. Donc, c'est très important de réaliser que l'alimentation des populations néolithiques était assez uniforme si on compare avec les populations hunter-gatherer,
chasseurs-cueilleurs.
Oui. Ouais. Et en plus, on parle aussi du processing de la nourriture. Donc, par exemple, si en plus on produit, par exemple, du pain, si on processe la nourriture, parce que ça va changer complètement les propriétés mécaniques.
Est-ce qu'on peut imaginer, après votre découverte, que par exemple à notre époque, la dentisterie va modifier notre façon de parler?
Ça, c'est une question assez intéressante. Et bien sûr, ça, c'est de la spéculation, c'est mon opinion, mais oui, je le pense bien. Mais on doit attendre peut-être 2 ou 3 générations, je ne sais pas. Donc,
oui. Mais ça pourrait changer quoi, concrètement?
Ça dépend bien. Donc, j'ai pas d'idée, d'hypothèse claire, mais si on regarde, il y a des standards de beauté qu'on essaye d'émuler, par exemple dans les pour les adolescents et tout ça. Donc, on essaie d'avoir des dents parfaites.
Mm-hmm. Oui.
Et en principe, oui, ça peut avoir des effets articulatoires, mais peut-être très petits, et peut-être on doit attendre, je vous ai dit, des générations pour voir.
Donc il faut qu'on se donne rendez-vous dans plusieurs générations d'âme de Dieu. Hein,
pour ce sera pour les prochains chercheurs alors.
Ouais.
Merci beaucoup, en tout cas votre étude a fait beaucoup de bruit, hein. On l'a vu vraiment absolument partout reprise et on voulait absolument parler avec vous aujourd'hui à la Une de la Science. Merci beaucoup à vous, merci aux équipes de Lyon.
Oui.
Et Axel, on se retrouve demain.
À demain, au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Karen Uhlenbeck devient la première femme à recevoir le prix Abel en mathématiques, prix très important. Professeure émérite à l'université d'Austin au Texas, spécialiste de l'analyse des équations à dérivées partielles. Elle a également été la première femme à entrer à l'Académie américaine des sciences en 1986. Le comité norvégien du prix Abel a commenté son choix par ces mots. Le travail de Karen Uhlenbeck a conduit à certaines des avancées en mathématiques les plus importantes de ces 40 dernières années. Chapeau, madame! L'homme est-il réellement capable de ressentir le champ magnétique terrestre? Une étude américaine publiée mardi dans la revue InEuro pense l'avoir enfin démontré à l'aide de plusieurs aimants géants, à l'intérieur desquels 34 participants ont été installés, équipés d'un électroencéphalogramme. On le sait, de nombreux animaux sont sensibles aux variations du champ magnétique terrestre, mais si c'est également notre cas, eh bien, reste à savoir si c'est parfaitement inconscient ou si cette aptitude impacte notre comportement ou nos actes. Et puis les lapins adorent l'ADN, les chercheurs londoniens se sont intéressés au choix alimentaire de ces dévoreurs de verdure et ils démontrent que quand le choix se présente, eh bien les lapins vont de préférence manger des plantes qui contiennent beaucoup d'ADN, une quantité qui peut varier jusqu'à 2400 fois d'une espèce à l'autre en fonction du nombre de chromosomes et de cellules qui composent justement la quantité présente dans la nourriture. À l'inverse, les gastéropodes comme les escargots préfèrent, eux, les espèces pauvres en ADN.